Votre invité à présent, Karine Bécard, le documentariste engagé pour l'écologie, Emmanuel Caplin.
Bonjour Emmanuel Caplin.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. La COP26, qui s'ouvre ce soir en Écosse, ne sera, on le sait déjà, certainement pas parfaite. Une fois de plus, les États vont tenter d'avancer, vont tenter de s'engager à réduire un peu plus leurs émissions de gaz à effet de serre pour éviter la catastrophe. Une catastrophe que vous observez depuis maintenant quelques années, aux côtés du photographe Yann Arthus-Bertrand, pour lequel vous travaillez, et à travers un film, une fois que tu sais, que vous avez réalisé en tant que documentariste effectivement engagé, un film qui vous a fait rencontrer les meilleurs spécialistes du réchauffement climatique. Emmanuel Caplin, quand vous avez appris cette semaine que la croissance de la France avait spectaculairement rebondi au troisième trimestre, plus 3%, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Comment est-ce que vous avez réagi? Ça vous fait sourire d'abord.
Tout est dans les rails, comme prévu. Dans le film, je parle d'un rapport, le rapport Meadows, le rapport du Club de Rome, plus connu sous ce nom, qui en 72 parlait d'une trajectoire de croissance ininterrompue, exponentielle, et puis à un moment donné qui plafonne, et puis qui à un moment chute, et avec toutes les conséquences qui vont avec. Donc pour l'instant, on est dans les projections. C'est ce qu'on appelle un rebond après un arrêt temporaire.
Mmh. Mais comment vous avez réagi? Vous avez ressenti quoi?
Tout va vraiment comme c'était prévu.
Alors, vous demandez aux Français de revoir leur style de vie. À quoi est-ce qu'on peut commencer par renoncer? On peut commencer par renoncer à quoi immédiatement? Vous, par exemple, Emmanuel Caplin, vous avez renoncé à quoi d'ores et déjà? Comment est-ce que vous vivez? Vous vivez différemment de moi?
J'avais grandi dans des villes, des grandes villes. Je suis parti vivre en zone rurale. J'y vis sans voiture, ce qui est quand même un défi en zone rurale depuis 10 ans.
Mmh. Vous vivez dans la Drôme?
Je vis dans la Drôme, voilà, dans la vallée de la Drôme. Depuis 6 ans, je travaille sur un projet d'habitat participatif où on essaie de repenser notre logement. On est plutôt sur des standards de logement social, donc plus petit volume et évidemment des bâtiments qui sont extrêmement performants au niveau énergétique. D'ailleurs, qui vont produire plus d'énergie qu'ils en consomment. Donc voilà, donc c'est on va dire, j'ai coché toutes les bonnes cases du bon écolo qui fait les petits gestes ou les grands gestes, qui investit beaucoup de son énergie, et de son temps et de son argent dans ces choses-là. Mais il faut être très conscient que c'est absolument nécessaire et en même temps absolument insuffisant, et c'est ça dont le film parle.
C'est une réflexion, c'est un comportement que vous avez commencé depuis combien de temps? Ça vous prend combien de temps? Ça vous a pris combien de temps?
Alors, le film a commencé en 2012, donc c'était 8 ans d'écriture, de tournage et de montage, ensuite avec la collaboratrice à la réalisation Anne-Marie Sangla, qui a été vraiment fondamentale dans ce film.
Alors, je ne parle pas du film, je parle de vos comportements qui ont changé, ils ont commencé à changer également en 2012?
Non, je pense que c'est plus ancien, ça remonte à l'enfance avec une attention, un soin. C'est pas des mots comme écolo ou nature que mes parents m'ont transmis, mais plus des choses qui sont de l'ordre de prendre soin des gens, des choses autour de nous. Et puis après, moi j'avais une fascination pour la biologie. Alors j'étais très mauvais en maths, très mauvais en physique, tout ce qui était scientifique, mais j'adorais la bio. Et j'ai eu la chance d'avoir une prof de bio au lycée qui m'a laissé voir venir à ses cours en tant qu'auditeur libre, et donc ça m'a permis de nourrir cette passion pour le vivant.
Mais vous expliquez que voilà, tout ça c'est du temps long. Combien de temps est-ce que ça prend selon vous de sortir un pays d'une économie de marché dans laquelle on est aujourd'hui?
Je pense que c'est beaucoup plus profond que le problème d'une économie de marché. C'est en fait ce problème d'une économie qui a besoin d'être productiviste. Donc tous les systèmes.
Donc pour sortir de cette société de production, ça prend combien de temps?
Je ne sais pas, on l'a encore jamais fait. Ce qu'on sait, c'est qu'on est capable de vivre dans une économie stationnaire, on l'a fait pendant l'époque médiévale, mais on ne sait pas comment, une fois qu'on en est sorti, qu'on s'est habitué à la croissance qui est absolument nécessaire pour générer de la stabilité sociale, parce que tant que le gâteau grandit, on peut écarter et mettre de côté les questions de justice sociale, ou en tout cas les traiter à la marge, parce que tant que moi j'ai une plus grosse part, mais que l'autre a aussi la capacité d'avoir une plus grosse part, on peut gérer le mécontentement. Mmh. Mais à partir du moment où le gâteau arrête de grandir, parce que soit on l'y contraint de manière volontariste, alors je ne sais pas, faudra le vivre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si moi, ça devient un jeu à somme nulle. Donc si j'ai plus, quelqu'un d'autre a moins. Et donc évidemment, ça change complètement la perception de comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir et de notre droit à la liberté de sans cesse avoir plus et pour toujours.
La France, malgré tout, est plutôt une bonne élève en matière de réduction des gaz à effet de serre. Je parle par rapport à la Chine, par rapport au Japon, par rapport à la Corée du Sud, par rapport à l'Amérique, par rapport au Moyen-Orient, ça en fait quand même. Hein. Donc comment est-ce qu'on répartit entre chaque pays les efforts de réduction des gaz à effet de serre?
Oui, bah ça, c'est depuis longtemps dans les accords des différentes COP. Donc on est allé filmer la COP 21 en 2015, qu'on verra dans le film.
Celle de Paris.
Celle de Paris. Depuis longtemps, on parle d'une responsabilité partagée mais différenciée. Donc ça, ces deux termes sont très importants. Partagée parce qu'il faut que tout le monde fasse un effort, et différenciée parce que les émetteurs historiques ont une responsabilité. Donc, cette différenciation permettait aussi aux pays en développement...
Donc, vous mettez de la France dedans, j'imagine.
Évidemment, bien sûr. Tous les pays, on va dire, historiquement industrialisés.
Encore une fois, on est plutôt bon élève, nous.
On est bon élève, mais ça dépend si on regarde juste sous le prisme climatique ou si on regarde l'autre côté de la pièce, qui est évidemment l'énergie. Si on considère aussi, ça en entendant moins parler, qu'on a un problème de pic énergétique, c'est-à-dire que l'énergie, c'est pas qu'il n'y en aura plus demain, c'est qu'il y en aura de moins en moins et qu'elle coûtera de plus en plus cher, alors les questions d'adaptation au changement climatique deviennent aussi des questions d'anticipation de ce pic. C'est-à-dire qu'il y a des co-bénéfices entre le fait de réduire nos émissions, parce que ça veut dire réduire notre consommation énergétique, et notre capacité à continuer à vivre dans une société où il va y avoir une pression très forte, on va dire carrément une pénurie énergétique. Et donc cette amputation énergétique dont il faudrait qu'on soit capable, donc on ne parle pas de transition mais vraiment d'amputation, c'est aussi finalement une stratégie d'adaptation nationale.
Quand on a en tête tout ce que vous avez, tout ce que vous nous racontez ce matin, comment est-ce qu'on vit en fait avec tout ça? Comment est-ce qu'on vit avec l'idée que tout sera peut-être bientôt fini ou tout va peut-être bientôt se terminer? Comment vous faites?
Alors moi je suis opposé au tout ou rien, je pense pas que tout sera fini, je pense que l'aventure humaine continuera. La question c'est est-ce qu'on sera encore 6 milliards, 5 ou quelque chose qui ressemble à ce qu'on a aujourd'hui dans le monde réparti partout, ou est-ce qu'on sera dans 300 ans 10 000 à vivre en Antarctique parce qu'on aura totalement redessiné les cartes de l'habitabilité de la Terre? Ça j'en sais rien.
Mais dans votre film vous dites tout de même que vous êtes parfois atteint de tristesse, que parfois vous êtes un peu pessimiste, que ça vous plombe. Donc psychologiquement comment on tient quand même?
Ouais. Mais je pense que l'incertitude va être une notion ou un sentiment avec lequel il va falloir qu'on apprenne à vivre, on réapprenne à vivre, hein, parce que c'est le lot de beaucoup de gens partout dans le monde aujourd'hui. Mais c'est cet état de... On est comme sur un trampoline en suspens, entre deux histoires. Voilà, on a eu cette apogée, cette montée, puis on se sent un peu en flottement, et on sent que peut-être ça va redescendre. Et il y a cette on se regarde un peu les uns les autres, on ne dit rien, il y a une sorte de tabou autour de ça. Et vraiment, c'est ça l'histoire du film. Ce film, c'est de raconter, c'est un désir vital, mais qui était encore confus, hein, ça m'a mis beaucoup d'années pour réussir à le formuler, de cette expérience partagée, de sentir qu'on est en train de devenir en fait des héros tragiques. Donc c'est pas les super-héros qui sont maîtres de leur destin, c'est tout d'un coup, on se rend compte qu'on est... Le destin nous échappe, en tout cas partiellement, et qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Alors dans ce film, vous fréquentez, Emmanuel Caplain, certains collapsologues. Est-ce qu'on peut vous classer parmi eux? Est-ce que vous-même, vous classez parmi eux?
Alors les collapsologues produisent du savoir, moi j'en produis pas, donc au mieux je suis collapsologue.
Le collapsologue pense que tout va s'effondrer, on peut présenter les choses comme ça?
Il regarde et il essaie de comprendre l'effondrement des sociétés industrielles. Ils pensent pas que tout va s'effondrer, mais
ils vont vivre en autarcie et ils se barricadent.
Alors ça c'est les survivalistes, qui est encore un autre.
Et puis après, degré supplémentaire.
Ce que je pense, c'est qu'il est extrêmement important de mettre des mots sur ce qu'on est en train de vivre et d'essayer d'expliquer aussi les mécanismes profonds. Et le fait est qu'on dépend tous d'une énergie extrêmement abondante. On a une intensité énergétique derrière notre société, notre mode de vie, nos rêves, notre capacité à nous projeter dans l'avenir qu'on partage. Nous sommes tous des tsars avec entre 200 pour le smicard et 1000 esclaves énergétiques derrière nous qui font que le matin, la bouilloire elle se met à chauffer, que le toaster il saute, etc. Et donc ça, c'est une expérience commune qu'on va devoir lâcher, et certains plus que les autres.
Merci Emmanuel Caplain, merci pour votre sincérité dans le propos. Je rappelle le titre de votre film qui est en ce moment sur les écrans, Une fois que tu sais, et je vous souhaite une excellente journée.
Merci.